papy, moi je suis deux mamies.
Moi j'en ai juste deux, quatre. J'ai au moins un papy qui est vivant, mais je n'ai jamais rencontré. Parce que mon père, il ne l'a jamais présenté.
Moi j'ai une copine, elle s'appelle Maë. Tous les mercredis, elle voit sa grand-mère à peu près.
Ma mamie, la grande mamie, je l'appelle mamie. Mon papy, je l'appelle papy. Mon autre mamie, je l'appelle mamie, ne pour comparer.
Bah, moi, c'est Anna, c'est ma grand-mère.
Bah, elle a un chien, ma mamie, elle s'appelle Django.
Et mon grand-père, je l'aime pas.
Mais merde, c'est que des blagues débiles.
Alors, les grands-parents, des fois, c'est énervant. Quand on veut quelque chose, ça doit demander tout le temps aux parents.
C'est plus sévère ou c'est moins sévère que les parents?
C'est moins sévère. Des fois, oui, des fois, non.
Axel, il a un papy qui ressemble à Gargamel, qui fait peur avec des cheveux tout gris.
Moi, pour être vieux, moi, je prendrais de la colle, je plisserais un petit peu et ça ferait des rides pour que je sois plus vieille.
Bah, moi, je me ferais les cheveux blonds.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le mien ne ressemblait pas à Gargamel, pas du tout. De mon grand-père à moi, je me souviens surtout des sourcils très épais. Il les coiffait avec une brosse à dents. Oui, une brosse à dents spéciale pour les sourcils. C'est ce qu'il me disait, peut-être que c'était pas vrai. Mon grand-père l'été me faisait compter les carreaux de la piscine. Là où on allait en vacances, il y avait une piscine dont le fond était en petits carreaux de mosaïque. Nous devions plonger, compter les carreaux en longueur, en largeur, multiplier et calculer le total. C'était une épopée, les calculs en apnée. Ces souvenirs, la brosse à dents à sourcils et les carreaux de la piscine, mes enfants les connaissent et me demandent souvent de les raconter. Pourtant, ils n'ont jamais connu leur arrière-grand-père. J'aime bien l'idée que cet homme-là vive un peu aussi dans leur mémoire à eux, avec des anecdotes futiles, mais qui racontent ma fascination d'enfant. C'est que les grands-parents sont un maillon essentiel de la transmission. Ils incarnent une histoire familiale. De façon bien plus concrète et logistique, ce sont eux qui gardent les enfants pendant les vacances, souvent. Une présence importante, mais dont le rôle n'est pas écrit. Il doit s'inventer dans chaque famille. Attention aux conflits entre parents et grands-parents sur les règles, sur le modèle d'éducation. Nous allons tenter aujourd'hui de mettre des mots sur cette relation si précieuse. Grands-parents et petits-enfants, un lien immense.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Et j'ai le grand plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Monique Desmet.
Bonjour Dorothée.
Et bienvenue, vous êtes psychologue et médiatrice de l'École des grands-parents européens. C'est une association de soutien aux grands-parents qui porte aussi la voix des grands-pères et des grands-mères dans l'espace public, comme ici, aujourd'hui. Vous allez bien sûr nous en dire plus sur cette association, mais je dois d'abord vous poser une question importante. Comment vous appellent vos petits-enfants?
Eh bien, on m'appelle Mamique, puisque je m'appelle
avec
Monique. Avec un K ou avec un G, puisque Mamique, ça veut dire petite mère en breton. Et comme je suis bretonne, effectivement, il y a ce raccourci que les plus grands nomment ainsi. Pourtant, les petits, c'est Mamie. C'est souvent Mamie. Il y a plusieurs Mamies. Donc, chacune des grands-mères est nommée Mamie.
Combien avez-vous de petits-enfants, Mamique?
Eh bien, j'en ai 10.
Ah, pas mal.
Qui s'échelonnent de 16 ans et demi, 17 ans, pratiquement, à 6 ans.
Et vous avez passé avec eux les vacances de Pâques?
Et oui, j'ai passé les vacances de Pâques.
Est-ce que vous connaissez Cornebidouille, Monique Desmet?
Bien sûr, je connais Cornebidouille. J'ai eu l'occasion de le lire avec ma petite fille la semaine dernière.
Ah.
J'ai vu que ça, non seulement ça intéressait, mais ça faisait beaucoup rire et ça permettait de dépasser aussi des peurs.
C'est une histoire que j'ai lue environ 4000 fois à mes enfants et qui commence ainsi. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Et ensuite débarque donc Cornebidouille, cette sorcière affreuse qui sent le vieux camembert et qui va tenter de forcer Pierre à manger sa soupe. L'auteur de ce monument de la littérature jeunesse est avec nous. Bonjour Pierre Bertrand.
Bonjour Dorothée, bonjour Monique.
Vous êtes à distance en duplex depuis Périgueux. Je remercie au passage nos camarades de France Bleu Périgord. Cornebidouille, illustré par Magali Bognol, édité à l'École des loisirs, tout comme La vengeance de Cornebidouille, tout comme Gloops, j'ai avalé Cornebidouille, et j'en passe beaucoup. On vous a invité, Pierre Bertrand, parce que Cornebidouille ressemble un peu à une méchante grand-mère. Mais aussi parce que les grands-parents sont présents dans vos histoires. Trois générations cohabitent dans cette maison. Est-ce que ça surprend parfois vos jeunes lecteurs et lectrices ?
Alors pas du tout. Alors ça c'est vraiment un étonnement parce que je rencontre évidemment beaucoup d'enfants dans les écoles autour de mes livres ou autour de mes contes. Et Dieu sait s'ils posent beaucoup de questions sur Cornebidouille et tous les livres. Mais ils n'ont jamais posé la question de la présence des grands-parents dans ce livre.
Ça vous étonne ?
Oui, ça m'étonne, parce qu'ils sont dans des générations où généralement les grands-parents ne vivent plus avec les parents, où ça devient extrêmement rare, alors que dans ma génération, ça se faisait encore.
C'était important pour vous qu'ils soient présents dans tous ces livres, les grands-parents du petit Pierre ?
Ben, ça a été complètement naturel, en fait. Quand j'ai voulu représenter ma famille, puisque je partais d'un souvenir personnel pour créer cette histoire, ben, j'ai mis mes grands-parents, voilà.
Est-ce que vous êtes vous-même grand-père, Pierre Bertrand ?
Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder, fin août.
Ce sera le premier ou la première, petit enfant ?
La première.
Un peu d'impatience, peut-être ?
Je vis ça très, très sereinement et avec beaucoup de plaisir. Et puis, de la relation qui va se créer, s'inventer, et qui est nouvelle pour moi.
Eh bien, justement, on va en parler ensemble au fil de cette émission. Et on va entendre des enfants nous parler de leur papy et de leur mamie. Émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page, réalisée par Christophe Imbert avec Guillaume Roux à la technique. C'est Barbatruc, jusqu'à 16h. When I think about...
Dorothée Barba.
C'était le duo britannique de Wet Leg sur France Inter. Barbatruc est chez Papy et Mamie cette semaine. Nous nous penchons sur le lien entre les enfants et leurs grands-parents avec Pierre Bertrand, l'auteur de Cornebidouille, et avec Monique Desmet de l'École des grands-parents européens. Alors ce mot peut-être va surprendre nos auditeurs, Monique Desmet, une école pour les grands-parents. En réalité, c'est une association. Mais pourquoi avez-vous choisi ce mot école ?
Le mot école signifie que les grands-parents ont toujours à apprendre. Rien n'est jamais acquis, les liens changent, la société change, la famille aussi se transforme en quelque sorte. Donc il faut aussi que nous soyons, nous, à l'école des grands-parents, accompagnant de ces mutations de société et de famille. Voilà pourquoi nous sommes une école et nous avons toujours à apprendre nous-mêmes en tant que professionnels, bien sûr.
Quelles sont les situations dans lesquelles les grands-parents vous sollicitent ?
Écoutez, nous avons tout d'abord, peut-être il faut le préciser, une mission de soutien, justement, des grands-parents qui peuvent être difficultés à un moment donné, en difficulté pour trouver leur place, en difficulté aussi pour établir des liens, pour rétablir des liens avec les petits-enfants. En général, c'est ça notre principale activité. Nous avons une ligne téléphonique d'écoute confidentielle, anonyme, où les grands-parents peuvent exprimer aussi leur souffrance, être reconnus dans leur souffrance. Ils peuvent aussi voir plus clair dans la situation et peut-être quitter la position de victime pour devenir acteur de changement. Ça, c'est pour l'écoute au téléphone. Et le cas échéant, il peut aussi être proposé aux appelants soit un soutien psychologique, soit un groupe de parole, soit une médiation.
La mission de cette association, je le disais, c'est aussi de porter la voix des grands-parents sur la place publique. Pourquoi est-ce important, à votre avis, Monique Desmet, qu'on entende les grands-pères et les grands-mères ?
Il y a beaucoup de grands-parents qui sont actuellement en grande difficulté, qui peuvent être mis à l'écart dans des familles qui sont plurielles, les familles qui sont aussi souvent mondialisées, voyez. Donc les visages des familles sont extrêmement variés. C'est compliqué pour les grands-parents. Ils n'ont pas de modèle, ils n'ont plus de modèle. Donc ils ont besoin parfois, non pas de se référer à un professionnel, non, c'est eux qui trouveront leur solution quand il y a difficulté. Mais on va les aider à dire ce qu'ils veulent dire, etc., pour éviter la violence. C'est une prévention de la violence. Nous avons aussi Tricoter Cœur, qui est une activité maintenant assez ancienne, où il y a quand même peut-être 8000 tricoteuses qui tricotent. Et voilà ce que nous proposons en termes de soutien, d'aide et d'intergénérationnel.
Avez-vous des grands-pères qui tricotent aussi ?
Il y a quelques grands-pères qui tricotent actuellement. Oui, oui, c'est vrai. Ce ne sont pas que des tricoteuses, je vous rassure.
La crise sanitaire, bien sûr, a malmené ce lien précieux. Oui. On n'avait plus le droit pendant de longs mois de rendre visite aux grands-parents. Comment ceux que vous accompagnez ont-ils vécu cette période ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les grands-parents ?
Ils nous ont dit que c'était très compliqué d'avoir des liens avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils se sont soumis, en fait, aux mesures sanitaires. Certains se sont sentis vraiment à l'écart, exclus, très fragilisés, aussi assimilés aux personnes très âgées qui sont en EHPAD. Enfin, il y a eu des mouvements très différents. Et puis, il y a des grands-parents qui ont trouvé d'autres façons de communiquer, par vidéo, par téléphone, etc. Et on s'est rendu compte que si les liens existaient, si les liens étaient très forts dans la famille, les liens n'étaient pas du tout détruits par cette pandémie. Au contraire, quand il y avait déjà rupture, il n'y a pas eu retour au lien. Il n'y a pas eu retour à la cohésion familiale. Ça, on l'a vraiment observé dans l'écoute au téléphone quotidienne que nous faisons.
Alors, pour mettre des mots sur ce lien précieux, on va donner la parole aux enfants à présent, au micro de notre reporter Juliette Proutot.
C'est quoi l'avantage avec les grands-parents ?
C'est qu'en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, parce que les grands, c'est ça leur problème, c'est qu'eux, ils disent toujours non, 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 et très rarement oui. Alors que nos grands-parents, oui, par exemple, ils disent oui presque tout le temps.
Et d'après vous, les grands-parents, c'est plus sévère ou c'est plus gentil que les parents ?
Gentil. Parce qu'ils sont vieux. Et aussi, ce que je crois qu'ils veulent nous montrer l'exemple, mais je sais pas trop. Je crois qu'ils veulent nous montrer l'exemple d'être sage, de bien obéir.
Mes parents, ils m'achètent plein de trucs, mais mon papi et ma mamie, ils font pas de trucs bien, je m'ennuie avec eux.
Est-ce que toi, t'aimes bien tes grands-parents ?
Oui, parce que ils sont gentils. Les parents, c'est les plus gentils, puis ils nous offrent des trucs, mais les papi et mamie, ils offrent quand même beaucoup de trucs. Moi, ils sont gentils, mais il y a un truc avec eux qui me bloque des choses avec, je sais pas quoi.
Est-ce que chez votre papi et votre mamie, c'est les mêmes règles
que à la maison avec vos parents.
Ah, moi, non, ma mamie, elle est super stricte. Ma mamie un peu grosse, qui a les cheveux courts et gris, et bah, mamie, du coup, et bah, elle est sévère un peu, elle veut pas qu'on mette les pieds sur les murs, et elle veut que les caprices, on les laisse chez nous, elle veut qu'on soit poli et qu'on fasse pas de bêtises, et aussi, elle adore le rangement, et elle veut qu'on... comment ça s'appelle ? Qu'on fasse pas de gaspillage.
Bah, c'est qu'en fait, comme les parents, ils ont du travail, et bah, les grands-parents, ils en ont peut-être plus. Ils sont peut-être à la retraite, et donc c'est qu'on peut tout le temps jouer en permanence avec eux.
Moi, je dirais l'avantage, c'est que, bah, c'est que eux, mes parents, mes grands-parents, ils me disent toujours oui. Oui, tu peux aller au parc. Oui, je vais t'installer une Nintendo Switch à Noël. Oui, j'ai le droit à tout, en fait, avec eux.
Et non. Pourquoi vous pensez que les grands-parents, ils disent quand même effectivement assez souvent oui ?
Parce qu'en fait, ils savent pas quoi d'autre dire et pour nous faire plaisir.
Et en plus, comme ils sont vieux, ils étaient pas très bien éduqués, alors ils nous disent toujours oui.
Parce qu'ils sont gentils.
Ah là là, il y a des perles sur ce sujet. J'espère que la grand-mère en question a entendu le portrait qui est fait d'elle. Hein. Elle adore le rangement et elle veut pas qu'on mette les pieds sur les murs. Pierre Bertrand, vous qui avez grandi avec vos parents et vos grands-parents, ça vous parle, cette divergence, disons, des principes éducatifs ?
Je dirais oui et non, parce qu'il y avait quand même, malgré les conflits qui opposaient, la rivalité qui opposait ma mère et ma grand-mère paternelle sous le même toit, il y avait quand même une certaine cohésion au niveau des règles de la maison. Donc on n'était pas tellement pris dans leurs conflits d'adultes. Les règles étaient les mêmes pour toutes. Par contre, ce qu'incarnaient mes grands-parents paternels, c'était une relation plus à distance que mes parents. Et puis, les grands-parents ont été parents. Et avec leurs petits-enfants, ils sont à la fois très... Pour moi, ils étaient très, très proches. Et il y avait quelque chose qui était plus à distance dans l'affectivité que mes parents, qui faisait que, lorsqu'il y avait des conflits avec mes parents, c'était un port de secours. C'était...
Des médiateurs, un peu.
Oui, des médiateurs dans la tendresse qu'ils pouvaient donner à ce moment-là. Moi, je me souviens de mes carnets de notes. Je ramenais souvent des carnets de notes lamentables. Et pour mes parents, c'était un truc catastrophique, quoi. Je me cachais dans les WC en attendant qu'ils aient lu le carnet de notes. Et puis, je revenais... je subissais les foudres de mon père et de ma mère quand c'était mauvais. Mes grands-parents rentraient pas là-dedans. Ils rentraient pas dans cette dimension trop proche, dans la colère. Et du coup, ils devenaient un havre de paix par rapport au conflit que je subissais avec mes parents.
Dans une enquête menée par l'IFOP l'an dernier, on apprend que 77% des grands-parents en France accueillent leurs petits-enfants pendant les vacances scolaires et le reste de l'année, ils sont 55% à les garder au moins une heure par semaine. C'est considérable, oui, c'est hein, Monique Desmettes. Oui. Et ça crée effectivement parfois des divergences sur les règles à la maison, sur les règles chez les grands-parents, sur la discipline. Quels conseils donnez-vous aux grands-parents qui se sentiraient fliqués, pour le dire clairement, par leurs propres enfants sur l'éducation?
Oui. Alors, il y a certains grands-parents, effectivement, qui nous disent qu'ils leur sentent qu'ils sont sous contrôle des parents. Ils ont des consignes concernant l'alimentation, concernant les horaires de coucher, concernant la culture, la religion, etc.
Ils le vivent mal?
Ils le vivent très mal parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à apporter à l'enfant, spécifiquement. Ils ont une transmission, peut-être, à apporter. Hein. Mais ce qu'on leur dit, on n'a pas de conseils vraiment à leur donner, mais on se dit qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des tensions dans la famille, ça fait partie, c'est inhérent de la vie familiale. Et nécessairement, il y a des divergences à tout niveau. Et ce n'est pas pour cela que les conflits vont émerger.
Est-ce que vous leur dites qu'au final, c'est tout de même les parents qui décident ? Comment sont élevés les enfants ?
Bien sûr. Les grands-parents doivent souvent lâcher prise et laisser un espace de liberté aux parents. Ce sont les parents qui ont l'autorité parentale et non les grands-parents. Et ce sont les parents qui vont ouvrir la porte des enfants aux grands-parents. Ce ne sont pas les grands-parents qui vont établir des liens. Ces liens ne sont pas acquis d'emblée. Il faut les construire et les construire avec les parents sans oublier les parents. Et on se rend compte que souvent les grands-parents, ils oublient les parents.
Et finalement, le fait que les règles soient différentes, c'est un premier pas vers l'altérité. On apprend que les règles ne sont pas partout pareilles.
Exactement. Et bien les enfants, ils le comprennent d'ailleurs. Quand on entend ces petits-enfants, ils se rendent bien compte qu'il ne se passe pas la même chose chez les parents et chez les grands-parents. Ils en profitent effectivement parce que les règles sont différentes. Mais parfois, c'est vrai, ce que disait une petite fille, la grand-mère peut être aussi très rigide, dans certains cas, très très sérieuse, et pour l'enfant, c'est peut-être un petit peu compliqué ce type de relation avec les grands-parents. Parce que Pierre Bertrand parlait de la distance que peuvent avoir aussi les grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants. C'est important qu'il y ait cette distance, dans la mesure où ils ne sont pas parents. Et les règles, c'est vrai, contribuent aussi à la formation de la tolérance, de l'acceptation de l'altérité. Et c'est très, très important.
On ne met pas les pieds sur les murs, ça on a bien retenu la règle chez grand-mère.
Et on ne va pas rechercher dans le réfrigérateur le dessert.
Dis grand-mère, c'était comment à ton époque? On va parler du rôle de transmission des grands-parents dans un instant. Voici d'abord Mathieu Chédid sur France Inter. Faut
que je passe dans ta radio, si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio. Tu scannes les moindres mystères de ce tube FM éphémère. Dans mon cœur, tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances.
Il y a Cornebidouille dans ta radio, l'auteur de ce personnage culte de la littérature jeunesse, Pierre Bertrand, est l'invité de Barbatruc en duplex de Périgueux pour parler de grand-parentalité. Il est très impressionnant, ce terme de grand-parentalité. Monique Desmettes, deuxième invitée dans ce studio, est médiatrice à l'école des grands-parents européens. Pierre Bertrand, est-ce que c'est une affreuse grand-mère, Cornebidouille ?
Elle représente des peurs que j'ai pu avoir de la présence féminine, en tout cas, parce que ma grand-mère était quelqu'un d'impressionnant, qui pouvait être quelqu'un d'extrêmement tendre, mais qui avait une place, je parle de ma grand-mère paternelle, tellement forte dans la famille qu'elle pouvait, je pense même inconsciemment, être un personnage trop dominant et peut-être inquiétant pour moi, et en même temps indispensable. Donc, moi, je me souviens en tout cas d'avoir fait des cauchemars autour d'un personnage qui venait dans ma chambre et qui était une présence féminine assez monstrueuse. Alors, je ne dis pas que c'était en rapport avec ma grand-mère, mais qui incarnait quelque chose de la peur, en tout cas, qui était liée au féminin, ça c'est sûr.
Il y a une chose à savoir sur Cornebidouille, pour ceux et celles qui n'auraient jamais lu vos livres, Pierre Bertrand, c'est une sorcière qui peut devenir immense, au point de casser le toit de la maison et d'aller croquer quelques nuages, et qui peut aussi rétrécir jusqu'à disparaître dans une chaussette que l'on jette aux toilettes. Grandir, Pierre Bertrand, grandir, est-ce que c'est le sujet de toutes vos histoires ?
Oui, et comment se débarrasser des peurs aussi. Comment se débarrasser d'un éléphantasme et de le réduire. Et en fait, l'idée des toilettes dans Cornebidouille est venue d'une phrase de Dolto, enfin d'une réflexion de Dolto, qui, quand elle faisait des émissions sur France Inter, avait eu une maman qui se plaignait de son enfant, qui disait toujours des gros mots. Alors, elle savait pas quoi faire de ces gros mots, et Françoise Dolto lui avait dit, eh bien, écoutez, qu'il aille aux toilettes, qu'il les dise dans la cuvette et qu'il tire la chasse. Et ça m'avait fait rire. Et cette idée, je l'ai reprise dans Cornebidouille.
Alors, merci Françoise Dolto, parce que les gros mots et les insultes dans Cornebidouille sont absolument savoureuses. Fesses de moineaux, face de lézard, trou de balle de ver de terre, ça fait pleurer de rire les enfants. Cornebidouille, ce sont des livres bien sûr, mais aussi désormais un podcast. Et pas n'importe quel podcast, vraiment, chaque épisode est une pépite sonore. Podcast produit par l'École des loisirs et Paradiso, les nouvelles aventures de Cornebidouille.
Quand Cornebidouille était petite, c'était une princesse adorable.
Ah oui, merci monsieur.
Bonjour madame.
S'il vous plaît mon père.
Comme vous voudrez ma mère.
Oui, une princesse comme on en voit dans les contes. Jolie, intelligente et tout.
Oui, c'est moi, la princesse Cornelia.
Et ses parents, le roi et la reine, l'adoraient. Ils lui faisaient des mimi bidouilles.
Des câlinos bidouilles. Des chatons.
Il lui bidouillait des jolis mots d'amour.
Et c'est pour ça qu'il m'appelait Cornebidouille.
Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et gna gna gna, tu parles.
Oui, mais c'était sans compter sur... Cracrabidouille.
Fripouille.
Ce sont des nouvelles histoires. Vous ne vous êtes pas contenté, Pierre Bertrand, de lire vos livres devant un micro. Très beau travail sur le son, sur l'habillage musical, sur les ambiances. Il faut citer Sabine Zovigian et Samuel Hirsch qui ont réalisé ce podcast. Est-ce que ça vous plaît, ce nouveau métier de podcasteur ?
J'adore. J'adore parce que je travaille pour des albums jeunesse où c'est l'image dessinée qui incarne les personnages. Et là, c'est le son. De travailler sur la sonorité, ça m'a ouvert en tous les cas d'autres possibilités d'histoire par rapport à Cornebidouille.
Voilà, vous êtes auteur jeunesse, mais surtout conteur, Pierre Bertrand. D'ailleurs, je me demandais quel rôle vos grands-parents ont joué dans cet itinéraire de conteur.
Alors, certainement ma grand-mère, parce que il arrivait qu'elle raconte des histoires qui pouvaient être des contes classiques. Il arrivait aussi qu'elle raconte des anecdotes de son enfance, qu'elle chante aussi, mais qu'elle chante avec... Elle avait un don pour détourner certaines chansons classiques avec des gros mots dedans, justement. Alors ça, c'était absolument délicieux, chose que ne devaient pas entendre mes parents. Donc c'était un moment très privilégié avec elle que cette transmission orale.
Il y a un rôle de transgression, finalement, dans ce que vous dites de la relation entre grands-parents et petits-enfants.
Absolument. Dans ces moments-là, oui. Pour nous, c'était... elle avait une version de Colchic dans les prés qui était absolument délicieuse.
Avec un mot qui ressemble à Colchic, peut-être.
Vous voulez que je vous chante la version de ma grand-mère de Colchic dans les prés ?
En exclusivité mondiale, ça nous ferait vraiment plaisir, Pierre Bertrand.
Bon, alors j'y vais. Colique dans les prés, ça presse, colique dans les prés, je n'ai plus de papier. La feuille de papier s'envole, et moi je cours après la merde entre les pieds. C'est d'une grande poésie.
Ah oui, c'est magnifique. Ça, c'est... Et là, on remercie votre grand-mère, donc, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est à ça que ça sert, les grands-parents. Et c'est notre sujet aujourd'hui dans Barbatruc. On va écouter à nouveau des enfants, ce que notre reporter a rencontré. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs grands-parents et de quoi parlent-ils ?
Qu'est-ce que vous préférez faire avec vos grands-parents ?
Aller au parc et jouer aussi à la maison. Oh. On peut aller,
moi, je joue tout le temps dans ma chambre avec mes déguisements.
On peut aller où on veut avec les grands-parents. Oh. Alors que les parents...
Oh, ne fais pas ci, ah, ne fais pas ça.
Oui, moi je les vois très très souvent, très très.
Ils aiment... Les deux, ils sont à Aubervilliers.
Les miens aussi.
Non, mais moi, ils sont pas à Aubervilliers, ils sont d'Alsace à Strasbourg.
Ah, du coup, toi, tu les vois moins souvent.
Oui.
Moi, ils sont à Aubervilliers.
Et mes grands-parents, ils sont en Suisse. Et moi, j'aime bien aller chez eux parce qu'ils ont un énorme jardin.
Vous pensez que des fois, les personnes vieilles, elles pourraient nous apprendre des choses ?
Bah, si à leur époque, il y avait l'école, bah, ils pourraient, par exemple, nous apprendre des techniques pour le français, les maths, la science, la géographie et toutes les matières aussi.
Mm-hmm. Toi, tu penses qu'elles pourraient t'apprendre quoi ?
Leur vie, comment ils ont vécu.
Est-ce que vous pensez que vos parents, à vous, quand ils étaient petits, c'était plutôt des enfants sympas ?
Sympas.
Ils avaient l'air d'être plutôt obéissants ou est-ce qu'ils faisaient des bêtises, vos parents ?
Bêtises. Ma mère, elle adorait faire des bêtises.
Tu fais quoi, toi, avec ton papy et ta mamie ? Est-ce qu'ils te racontent des trucs de vos parents quand ils étaient petits ? Est-ce qu'ils vous racontent des histoires ?
Ma mamie, qui est stricte, elle nous dit plein de trucs, elle nous montre des photos. Et mon autre mamie, elle nous montre des espèces de grands cahiers avec plein de photos dedans.
Des albums photos
Elle a plein d'albums photos, plein. Même ma maman qui faisait de la danse.
Et est-ce que tu crois que tes parents, quand ils étaient petits, ils faisaient des bêtises ou ils étaient sages?
Mon papa, non. Mais j'ai une histoire de lui quand il était ado. Il m'était dans son lit et... Je ne sais pas quel âge il avait, mais il avait faim. Donc lui, il est allé dans un magasin pour aller acheter des gâteaux et tout. Et elle a attendu sur son lit. Et du coup, il est revenu avec plein de gâteaux, la bouche ouverte.
La bêtise n'est pas très impressionnante, mais manifestement, elle a marqué cet enfant. Je l'ai constaté d'ailleurs à titre personnel, mes enfants aiment bien enquêter auprès de leurs grands-parents sur l'enfance de leurs propres parents. C'est une pratique répandue, Monique Desmet.
Oui, et je crois que c'est aussi un des rôles des grands-parents, de transmettre cette histoire familiale. Ça peut être des objets aussi, on a vu l'évolution des objets. Je pense par exemple au téléphone portable, je pense à un petit garçon qui demandait à son grand-père, mais alors tu n'avais pas de portable quand tu étais petit, et le grand-père, ben non, on n'avait pas d'électricité, on était à la campagne. Et le petit garçon, qui a 5 ans, lui demande, mais alors comment tu faisais pour charger ton portable? Alors qu'il ne l'avait pas, vous voyez. Bon, je crois que les grands-parents introduisent aussi les enfants dans la temporalité. C'est l'histoire qui se transmet avec, bien sûr, le fait que les parents ont été aussi des enfants. Ils ont fait des bêtises. Alors ça, ils adorent ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme bêtises, papa ? Il est allé voler des fraises. Oh ! C'est très drôle, quoi, de voir que leur parent a été aussi un enfant, est devenu parent, et qu'il va devenir aussi grand-parent. Donc, ça introduit dans la succession des générations et dans la temporalité. Et ça, c'est rudement important, quand même, pour l'enfant.
Et là, revoilà la transgression, Pierre Bertrand.
Oui, je pensais aux photos. Les photos, effectivement, sont un élément très, très important qui réunissait tout le monde à la maison. Il y a une boîte, elle y est toujours, d'ailleurs, une boîte à photos avec tous les souvenirs de famille, parents et grands-parents, quand on sortait cette boîte, mon frère et moi étaient là pour faire le lien. Et je pensais à ce que disait Monique de l'enracinement, de la transmission, c'est tout à fait ça. Et quand j'étais éducateur spécialisé, je travaillais avec des enfants qui avaient pas mal de difficultés, et je m'apercevais que les enfants qui n'avaient pas, pour différentes raisons, soit parce qu'ils étaient décédés, soit parce que surtout les parents étaient en conflit avec leurs propres parents, il y avait comme un trou dans l'univers familial, et ce trou se ressentait dans les problèmes que pouvaient avoir ces enfants.
On va écouter à présent une des plus belles chansons du monde, tout simplement, c'est Bill Withers qui nous raconte les mains de sa grand-mère. Mmh. 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 Mmh.
church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. The local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. To hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core. But I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma.
Grandma's Hand, Bill Withers, en 1971. Nous parlons des grands-parents, oui. Cette semaine dans Barbatruc, du lien entre grands-parents et petits-enfants avec une grand-mère et un futur grand-père. Monique Desmet de l'École des grands-parents européens et Pierre Bertrand, l'auteur de Cornebidouille. Vos petits-enfants, à vous, sont-ils des chicoufs, Monique Desmet? Sans doute faut-il expliquer ce néologisme.
Alors, est-ce que ce sont nos petits-enfants qui sont des chicoufs ou est-ce que c'est nous qui ressentons le chicouf? Je pense que c'est une formule qui est maintenant un peu
vieillotte,
un
presque.
Peu vieillotte, un peu désuet,
donc
un
c'est
peu fané.
C'est une manière de dire avant qu'ils arrivent chic, oui. Ils arrivent, il y a une impatience et ouf, ils sont repartis.
Mais ça correspond bien à la réalité quand
les
même,
chicoufs.
Puisque effectivement, les grands-parents sont parfois fatigués après avoir assumé la charge des petits-enfants pendant les vacances scolaires, par exemple, lorsque les parents sont débordés ou n'ont pas de vacances. C'est vrai qu'ils peuvent être fatigués, mais en général, ils n'osent pas le dire. Parce que dire qu'ils sont fatigués, ça veut dire aussi qu'ils ont vieilli, qui n'ont plus de force. Et le risque, peut-être, c'est qu'on leur confie plus les enfants s'ils sont fatigables. Donc, ils font comme si, souvent, ils étaient en pleine force. Tout allait bien. Donc, ils ne vont pas parler de chicouf, en général.
Donc là, il y a un double message dans ce que vous dites. Pour les grands-parents, n'hésitez pas à dire quand c'est trop. Et pour les parents, voilà, n'oubliez pas la fatigue de vos aînés.
Alors, est-ce qu'il faut savoir dire non? Je pense que oui, c'est très difficile de dire non, de s'opposer aux demandes des parents, qui sont parfois justifiées, parfois aussi le sont moins. Peut-être qu'il faut laisser un espace de liberté aux parents et nous laisser à nous, grands-parents, un espace de liberté aussi, puisque nous, grands-parents d'aujourd'hui, nous avons quand même une vie personnelle et des projets personnels.
Les grands-parents offrent aussi aux enfants, et c'est important de le souligner, un regard sur le temps qui passe, sur le vieillissement. On va écouter les enfants sur ce sujet, ceux et celles à qui notre reporter Juliette Proutot a tendu son micro.
À quoi est-ce qu'on voit qu'on est vieux?
C'est l'âge et et des fois ils sont beaucoup plus petits que les parents, des fois beaucoup plus grands.
Bah ils ont des cheveux blancs et ils tremblent.
Ouais. Ma grand-mère, elle a dit quelque chose qui n'était pas du tout vrai. C'est qu'en fait, les enfants, quand ils avaient raté un exercice ou fait une faute, ils avaient une claque.
C'est vrai. Ma mamie, en fait, quand elle était petite, quand elle ratait quelque chose ou qu'elle levait pas le doigt, on lui jetait. Avec une règle, on l'a frappé ou avec un bâton.
À leur époque, il n'y avait pas l'école. Le père de ma mère, il est mort. Mmh. Et il a dit que pour écrire des mots, c'est lui qui les écrit parce que les autres, ils sont alphabètes.
Pour vous, ça veut dire quoi être vieux?
Il a les cheveux gris, la peau ridée.
Il marche avec une canne.
Et il se déplace pas trop.
Elle a des rides partout. Elle a un nez comme tout le monde et... Elle est grande, elle est gentille et elle m'achète plein de trucs. Et mon papy, il a l'air un peu gros, mais pas beaucoup. Il est très gentil. Bah Anna, elle a les cheveux blancs, elle est grande.
Ça veut dire quoi être vieux pour toi?
Bah qu'on est âgé, qu'on a passé beaucoup d'enfance,
qu'on a passé plein de trucs.
Est-ce que toi, t'as peur de devenir vieille?
J'aimerais pas, parce qu'on a le dos tout cassé et on a mal toute la journée.
Ce que vieillir veut dire, les cheveux blancs, les rides, le dos tout cassé. Et moi, je retiens surtout cette formule, être vieux, c'est quand on a passé beaucoup d'enfance. Il faut l'encadrer, cette phrase, Pierre Bertrand.
Ah oui, c'est magnifique. c'est magnifique. Oui.
Il y a des perles sur ce sujet, mais finalement, si tant est qu'on puisse parler d'utilité, les grands-parents, ça sert aussi à ça, à créer un lien entre générations et à montrer ce que c'est que de vieillir, Pierre Bertrand.
Oui, c'est tout à fait ça. Le lien des générations, l'histoire de la famille aussi, le fait aussi qu'ils ont été parents, ça je pense que c'est très très important, qu'ils incarnent aussi, oui effectivement, le fait d'avoir été parents et en même temps de ne plus l'être complètement directement, en tous les cas avec des enfants qui sont sortis de l'enfance, enfin on l'espère en tout cas, et qui donnent cette distance dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que les enfants qui, quand ça se passe bien avec les grands-parents, ont la chance de vivre ça, se structurent mieux, à mon avis.
C'est vrai que les enfants répètent beaucoup à leur époque, comment c'était à ton époque. C'est un manuel d'histoire ouvert sur la famille, ce lien avec les grands-parents, Monique Desmet.
Oui, on a traversé, nous les grands-parents, beaucoup d'étapes, beaucoup d'enfance, comme disait la petite fille tout à l'heure. C'est vrai, donc effectivement, on est un livre ouvert de l'évolution de l'histoire familiale, mais aussi de la grande histoire, parce que l'histoire familiale traverse toujours la grande histoire. Il y a eu des transformations au niveau médical, au niveau technique, au niveau social, au niveau de la famille aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc effectivement, c'est un livre ouvert, mais qui est toujours à écrire. Il n'est pas fini ce livre, il n'est pas fermé. Et heureusement qu'il n'est pas fermé.
Le problème, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pas un problème, vous allez me le dire, c'est que parfois il y a des histoires pas vraiment pour de vrai, qui sont insérées dans les récits. Quelle place on fait à l'imaginaire dans les histoires de grands-pères et de grands-mères, Pierre Bertrand? Moi je me souviens de ce grand-père qui disait à son petit-fils que les spaghettis poussaient dans les arbres. Au soir couchant, tu peux voir les spaghettis qui se balancent comme ça. Et voilà, l'enfant le croyait vraiment. Ça sert à ça, les grands-parents, à inventer des histoires, Pierre Bertrand?
Mes grands-parents, quand ils parlaient de choses réelles, ne partaient pas vraiment dans l'imaginaire. Quand ils partaient dans l'imaginaire, le code était clair que c'était une histoire, un conte, etc. C'est plutôt moi qui pouvais faire de leur réel quelque chose qui pouvait partir dans l'imaginaire.
Vous allez me trouver bien trop sage, Pierre Bertrand, mais moi, la première fois que j'ai lu Cornebidou, il y a un enfant, j'étais outrée. C'est une ode à la désobéissance, cette histoire. Jamais ce gosse ne va manger sa soupe, hein.
Oui. Ouais. Alors, il y a beaucoup de parents qui m'en ont fait le reproche de cet enfant tout puissant. Autoritaire, etc. Mais c'était pas tellement mon propos. Même si, dans son côté irrévérencieux, manger la soupe ou ne pas la manger, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire ne pas être complètement dans la parole des parents. Et cette opposition chez l'enfant me semble aussi nécessaire dans une juste mesure, évidemment, dans la mesure où l'enfant se construit aussi en s'opposant. Et là, il prend au pied de la lettre la parole de son père qui dit « Si tu ne manges pas ta soupe, Cornebidou, il viendra te voir la nuit et te fera tellement peur que tu mangeras la soupe et la soupière. » C'est une parole terrible, prise au pied de la lettre. Et il va devoir se débattre avec ça, puisque la parole de son père va s'incarner par cette sorcière, cette peur, cet éléphantasme, comme je le disais tout à l'heure, qui va essayer de le faire cuire, de le dévorer, de le ligoter, de le faire disparaître.
Elle vous fait moins peur aujourd'hui, Cornebidouille?
Ouais, je crois.
L'enfant tout puissant, nous disait à l'instant Pierre Bertrand. Est-ce que ça revient dans ce que vous disent les grands-parents, Monique Desmet, dans ces fameuses divergences de modèles éducatifs entre les générations? Les grands-parents d'aujourd'hui disent-ils que les enfants sont rois?
Ah, tout à fait. La plupart des grands-parents disent cela. Oui, oui. Oui, ils ont.
Et comment on s'en sort avec ça?
Il n'y a pas de frustration. Ils pensent que les parents les frustrent peu. Et quand ils viennent en vacances, en fait, voilà, ils réclament beaucoup de choses qui sont peut-être impossible à réaliser ou à donner pour les grands-parents. Donc, ils sont vraiment parfois, mais pas toujours, dans la toute-puissance, effectivement. Et je pense que nous, grands-parents, nous avons élevé aussi nos enfants, justement, lorsqu'ils sont nés autour de mai 68 et 70, nous les avons élevés aussi dans un souci d'épanouissement personnel.
où la frustration, je pense, enfin c'est peut-être une pensée personnelle, je pense que la frustration était quelque chose qui était malvenu. Si bien que nos propres enfants, ils ont grandi aussi peut-être avec peu de frustration et ils reproduisent avec leurs enfants, avec cette facilité de vivre que nous n'avions pas nous, mais qu'ils ont, puisque les enfants ont à leur disposition énormément de choses à tout point de vue. Hein. Si bien qu'on pense que les enfants sont tout puissants, je ne suis pas sûre que ce soit réel, en ce qui me concerne.
Vous avez l'impression, en tout cas, que chacun peut toujours faire un pas vers l'autre, entre les parents et les grands-parents, sur ces tensions, ces conflits, en tout cas ces désaccords autour des enfants.
Oui, lorsqu'il s'agit uniquement de tensions, parce que les tensions existent dans toutes les familles, hein, faut pas se leurrer, c'est lorsque les tensions se transforment en conflits, hein, des conflits qui étaient latents, qui étaient souterrains et qui éclatent au grand jour. À ce moment-là, renouer les liens, c'est quand même long. En général, il faut que chacun fasse un pas de côté, essaie de se mettre à la place de l'autre et envie vraiment d'être acteur de changement.
Et s'il y a bien un sujet sur lequel les règles sont différentes en fonction des familles, en fonction des maisons, c'est les gros mots, Pierre Bertrand. Et je dois dire que votre créativité en matière de gros mots et d'insultes est spectaculaire. Quel est le gros mot préféré, enfin votre gros mot préféré dans le répertoire de Cornebidouille?
Je crois que j'aime bien « pue du bec des toilettes
». Trop de balles de verre de terre, c'est pas mal aussi.
Oui, hein. J'aime bien aussi, ils aiment bien les enfants.
Les rimes sont riches, il y a des assonances dans Cornebidouille. Non mais tu rigoles, tête de gondole, cette fois je te tiens mon petit boudin. Ça sert aussi à ça, ces histoires, et c'est pour ça que ça marche aussi fort.
Je pense que oui, ce que me renvoient les parents et les enfants qui aiment Cornebidouille, c'est un rythme, c'est une musique. Hein. Là, j'ai inventé en fait des vrais faux gros mots. On est limite, hein. J'ai bien conscience que c'est limite, mais ça peut quand même se dire. Donc, il y a une fonction expiatoire aussi. On peut difficilement dire des gros mots dans la famille. Voilà, c'est pas trop autorisé, c'est pas autorisé à l'école, mais là, on est dans un cadre imaginaire où on peut prononcer ces vrais faux gros mots. Donc ça a une fonction d'évacuation, c'est ce que disait Dolto finalement dans son émission. Et il me semble que cette fonction d'évacuation par l'imaginaire et par l'humour, elle est essentielle pour les enfants, mais pas que pour les enfants, pour les adultes aussi.
Et tu vas voir, espèce de prout, de dromadaire, de quoi sont capables deux sorcières quand elles sont en colère. Extrait de Cornebidouille contre Cornebidouille. Je suis assez sidérée d'apprendre que les parents viennent vous le reprocher, hein, le côté transgressif de ces histoires, Pierre Bertrand.
Alors, au début, certains plutôt. Parents, ouais. Mais c'est pas fréquent en fait. Alors ils osent pas venir me voir, je sais pas.
Nous allons à présent jeter un œil à l'actualité du livre pour enfants grâce à Denis Chessou. Voici ses conseils de lecture de la semaine. Bonjour Denis.
Dorothée Barbage en France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Oui, on va débuter par Renard et Petit Georges de Thibaut Prume aux éditions Margaux, c'est pour les 4-7 ans. Alors c'est l'histoire de la construction d'une amitié improbable entre un renard et un mulot.
Faute d'un gros lapin dodu, je me contenterai d'un petit mulot à manger.
Le renard l'attrape, mais dans la forêt, il tombe avec le mulot dans un grand trou.
Oh, c'est malin. Tu ne pouvais pas te laisser manger comme tout le monde.
Mais moi, je l'aime bien, ma petite vie. Tu vas me manger ?
Non.
Car dans ce trou, Renard a peur de s'ennuyer.
Tu n'as pas la conversation d'un renard, mais c'est toujours mieux que de parler aux haricots que tu as ramassés.
Et naît une relation, puis aussi une idée. Eh oui, planter le haricot. Ainsi, le mulot plus léger que le renard pourra grimper sur sa tige et sortir du trou.
Et du haut, je t'enverrai une corde et tu sortiras aussi.
Dubitatif est le renard, habitué au rapport de force.
Tu ne me crois pas, mais si nous étions amis, je pourrais t'en faire la promesse, dit le mulot.
Alors le rapport classique dominé-dominant s'efface au fil du lien qui est tissé. Renard, tu n'as pas de nom ?
Non, pourquoi faire ? Personne ne m'appelle jamais.
Alors moi, c'est Petit Georges. Il propose des noms au renard pour le nommer, le faire mieux exister. Et autour du haricot qui pousse, ils se racontent leur vie.
Celle du renard, de forêt en poulailler et ses longues nuits passées sous les étoiles.
Celle de Petit Georges, avec sa famille et son amour de jeunesse, une jolie souris des prés. On échange des petits bouts d'univers inconnus de l'autre, on dépasse les a priori sur la vie plus ou moins convenue de son comparse.
Le mulot grimpe sur la tige qui a poussé au-dessus du trou, puis il sort Renard qui a très faim.
Mais il n'avait plus du tout envie de manger le mulot.
C'est ainsi. Les amis, ça ne se mange pas.
Alors ils se dirent au revoir.
Je suis content d'avoir trouvé ce haricot, dit le mulot.
De la méfiance à la confiance, amitié entre deux êtres que tout oppose. Alors, peut-être rien de rare dans l'histoire, mais le traitement est touchant de simplicité, de partage et de justesse. Autodidacte, Thibaut Prugne est le fils d'un grand illustrateur de BD. Dessin à la gouache, assez lumineux, même au fond du trou. Le tout est secoué par une jolie dose de talent. Donc, c'est drôle, tendre, ça aborde les thèmes du vivre ensemble, du déterminisme ainsi que de l'amitié. Renard et Petit Georges, c'est aux éditions Margaux, c'est pour les 4-7 ans. Betty et Bert de Julie Colombet aux éditions Helium à partir de 5 ans. Oserez-vous pénétrer dans l'obscurité de cette grotte ?
Elle est habitée comme beaucoup par des chauves-souris et ressemble à une maison tout à fait ordinaire. Sauf que le plafond est au sol et le sol au plafond.
Il n'y a pas que l'espace qui est inversé.
Pendant la journée, qui est en fait la nuit pour elle, les chauves-souris dorment. Et pendant la nuit, qui est leur journée, elles se réveillent et s'activent.
Parmi elles, il y a une chauve-souris qui va nous intéresser plus particulièrement. Betty.
La chauve-souris la plus farfelue de la colonie. Elle aime se promener, découvrir les alentours et rêvasser. Cette nuit-là, elle trouve un tout petit animal, si mignon.
C'est une petite chose toute verte qui, en grandissant, se met à pousser des coa-coa répétitions. Elle le présente vite à toutes ses copines chauves-souris.
Et le jour, qui est en fait la nuit pour Betty, semble vraiment être la journée de Bert. Les nuits mouvementées s'enchaînent et les chauves-souris sont épuisées.
Oui, Betty et Bert sont chassés par les autres.
Et alors, ils s'installent en bas de la grotte. Mais Betty ne passe pas une nuit très agréable et la journée est pire.
Or, un matin, Bert a disparu. Et là, Betty panique, le cherche partout, jusqu'à ce qu'elle soit guidée par des koas qui n'appartiennent pas uniquement à Bert, mais à plusieurs d'entre eux.
Betty est soulagée d'avoir retrouvé son ami. Mais elle sait, elle voit qu'il est heureux là avec les autres grenouilles. Elle doit le laisser.
Betty la chauve-souris et Bert la grenouille écrivent ensemble une histoire d'amitié, complice et inconditionnelle, placée là aussi sous le signe de la différence. Et si tout semble séparer une créature diurne de l'eau et une créature nocturne des airs, eh ben, ce livre vient remettre en question les préjugés, en montrant que ce qui peut paraître complexe n'est parfois qu'une question de point de vue.
Et le travail de création de Julie Colombet, Denis.
Alors là, on savoure son esprit facétieux. Elle signe ici pour la première fois un album en tant qu'autrice et illustratrice, et elle représente une ribambelle de personnages qui fourmillent sur les pages et créent un joyeux brouhaha par leur bavardage. Donc l'humour se conjugue dès lors à la tendresse et au dynamisme pour un album jovial et tout à fait attachant. Betty et Bert aux éditions Helium, c'est à partir de 5 ans. Merci à Christophe Imbert pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures et une bonne fin d'émission, Dorothée.
Merci Denis. Sur le site de France Inter, à la page de L'as-tu lu mon petit loup, on retrouve tous les titres des livres ici recommandés. On approche de la fin de Barbatruc. Je suis toujours avec le papa de Cornebidouille, Pierre Bertrand, et avec Monique Desmettes de l'école des grands-parents. J'ai une dernière question, question rituelle à vous poser à tous les deux. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Monique Desmettes.
Ah, j'y réfléchis beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'odeurs. Je vivais à la campagne, il y avait beaucoup d'odeurs, beaucoup d'arbres. C'est peut-être l'odeur de la rose, qui était quelque chose d'assez un peu exceptionnel à la campagne. Il y avait peut-être peu de roses, il y en avait davantage en ville, mais pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire, la rose. Et ça l'est toujours, et c'est resté là aussi. Je ne sais pas s'il y a eu une transmission, s'il y a eu une permanence de choix.
Et vous, Pierre Bertrand, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Ah ben, je crois que c'est une odeur qui est liée à ma mère et à ma grand-mère qui préparaient le pain perdu. Mélange de pain donc rassis, trempé dans du lait avec de l'œuf, du beurre, enfin un truc qui faisait un goûter délicieux. C'est comme si tout à coup on vous mettait un édredon tout doux, quoi. Et ça, il y avait une odeur dans tout, ça remplissait la maison de cette odeur presque capiteuse, mais qui était un délice. Le pain perdu, c'est vraiment l'enfance pour moi.
L'important, c'est la rose et le pain perdu. On trouvera toutes les infos sur votre association, Monique Desmettes, sur egpe.org, École des grands-parents européens. Et je rappelle que toutes les histoires de Cornebidouille et de Pierre Bertrand, illustrées par Magali Bognol, sont éditées à l'École des loisirs. Idéal pour élargir en famille votre palette de jurons, d'insultes et de gros mots. Caca de libellule, vieux poils de trou de nez et pipi de moustique. N'oubliez pas de les apprendre vous-même d'ailleurs à votre future petite fille, Pierre Bertrand.
J'y manquerai pas.
Le podcast Les Nouvelles Aventures de Cornebidouille réjouis et très vivement recommandé. On trouvera un lien à la page de Barbatruc. Grand merci à vous deux.
Merci aussi, Dorothée.
Et à bientôt sur France Inter.